Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Salut à tous, bienvenue sur RMC le dimanche matin à la radio et évidemment en vidéo sur 01net.tv.com, sur la chaîne YouTube de 01TV et sur la chaîne 01TV sur les box SFR, Orange, Free et France. Je suis très heureux de vous retrouver car au beau milieu de cet été 2020, tout à l'heure je vais vous faire découvrir sans doute l'un des cartons de la rentrée. Il s'agit d'un nouveau vélo et c'est le vélo Angel. C'est un vélo 100% français, fabriqué en France et porté par l'un des plus talentueux entrepreneurs français. Marc Simoncini sera avec moi tout à l'heure. On parlera du vélo aussi, mais un petit peu de sa carrière, une carrière éblouissante. Ça sera tout à l'heure donc dans De quoi je me mêle pour le deuxième module. D'ici là, n'hésitez pas bien sûr à réagir au contenu de De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Et puis bien sûr, vous avez la page Facebook qui vous attend pour partager votre passion de la tech. N'hésitez pas. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et vous le savez, De quoi je me mêle commence par l'actu tech de la semaine. Et pour commenter cette actu, eh bien, j'ai Jean-Sébastien Zanqui qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com et c'est Gonzague dans Wicourt qui s'y colle aussi cette semaine. Salut Gonzague.
Salut François.
Blogueur, entrepreneur, spécialiste de l'internet et des vélos aussi. Tiens, c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que tu vas écouter avec beaucoup d'attention l'interview de Marc Simoncini. Mais pour débuter, l'actu de la semaine, avant d'évoquer cet incroyable piratage de Twitter, hein, qui fait vraiment les choux gras de la presse aujourd'hui et depuis quelques jours. On va évoquer cette info de Samsung qui n'est pas passée inaperçue. Samsung qui nous parle d'ores et déjà de la 6G.
C'est ça, de la 6G.
C'est pas facile à dire, hein, d'ailleurs.
Non,
il va falloir
6G,
5G, ça va, mais 6G...
Samsung qui fait la 6G, oui, c'est vrai.
Ouais,
tout à fait. Et alors, c'est intéressant à plus d'un titre parce que c'est notamment sur les usages. Par exemple, est-ce que ça vous dirait d'avoir un jumeau numérique que vous pourriez envoyer à votre place au bureau? C'est sympa comme idée.
Ah, ça, c'est
vous
pas mal.
Chez vous,
c'est
voilà.
Le futur du télétravail.
C'est ça, exactement.
Hein, c'est un peu ça.
Et c'est un des usages qu'imagine Samsung sur cette 6G, donc, qui, d'après le constructeur coréen, serait disponible à partir de 2028. Samsung fait le forcing pour que ce soit disponible donc 2 ans avant la date de 2030, qui est la date cible, on va dire, de toute l'industrie pour la 6G. Alors, ce genre d'usage, ça sera possible grâce à déjà des débits améliorés, forcément, hein, mais là, on a atteint des niveaux avec 1000 gigabits par seconde en pic.
1000 gigabits.
Voilà, une latence de 100 microsecondes.
Vous avez des téléphones qui fument.
Que la 5G. C'est ça. Et Samsung, voilà, donc parie que tous ces usages pourraient permettre, par exemple, de créer une sorte de double numérique, parce que grâce à ces débits, on pourrait déjà avoir une réalité virtuelle qui est étendue, et également une création d'hologrammes. Donc, on pourrait finalement se représenter directement avec un casque sur la tête, son double numérique qui évolue dans le bureau qui est représenté directement en réalité virtuelle. Et au bureau, il y aurait en fait un robot qui réagit à votre place dans l'environnement. C'est
d'accord.
Lui qui va
aller
serrer la main de vos collègues. Enfin bon,
oui, voilà,
c'est quand on veut interagir avec les objets, etc., dans l'environnement, c'est le robot qui le ferait à sa place. Alors, c'est comme ça donne un peu le tournis.
On peut faire dire n'importe quoi au robot, en plus, si on n'est pas là, on s'en fout.
C'est ça. Ça donne un peu le tournis, forcément, parce que la 5G n'est même pas encore disponible en France, qu'on est déjà en train de parier sur ça. Mais c'est aussi un moyen pour Samsung de se positionner sur cette 6G. On sait que Samsung sait très bien faire de la réalité virtuelle. On sait que Samsung sait faire des terminaux 5G et donc 6G. Et on sait que Samsung aussi fait tout ce qui est infrastructure.
Bien
et
sûr.
Ça va devenir pour lui une partie proéminente dans son activité.
Et puis en étant le premier à parler de la 6G, il se positionne en disant le jour où c'est prêt, les gars, vous pourrez faire appel à nous.
Ça. Un vrai sujet avec Huawei aussi. Par exemple, l'Angleterre qui commence à dire on va sortir Huawei de nos réseaux, etc.
Donc, d'ici 8 ans, en fait, c'est Huawei n'aura plus le droit d'être présent en Angleterre. C'est incroyable.
Tout à fait.
Donc il y a tous les acteurs comme Nokia, Ericsson, etc. qui sont là. Coucou, nous aussi on fait des équipements qui vont bien. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est quand même d'abord en train de se disputer sur la 5G. Donc la 6G, oui,
c'est
peut-être
la prospective,
qu'on va faire directement 4 à 6.
Mais c'est vrai que Samsung, qui n'est pas forcément très présent dans la 5G actuellement, se dit c'est peut-être le moment de placer mes pions pour la suite, et de montrer qu'on sait faire ce genre de choses.
Mais finalement, on se rend compte qu'il y a 8 ans entre chaque génération de réseau mobile. Oui. Moi, je me souviens, on commençait à parler de la 4G de manière sérieuse en 2012. Oui. 2013, ça a été le lancement de Bouygues Télécom avec, d'un coup, 60% de la population, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait appuyé sur un bouton et il y avait 60% de la population couverte en 4G. Donc, finalement, 2028-2020, on est dans les clous.
Oui,
quoi.
C'est ça, tout à fait.
Mais il va falloir quand même régler tous les problèmes inhérents à la 5G et surtout à ces drôles de bruits qui circulent à droite à gauche, comme quoi la 5G aurait provoqué des maladies.
D'ailleurs, c'est très intéressant si tu regardes, parce que le même genre de rumeur pas très fondée existe depuis le début
bien
de
sûr.
N'importe quel appareil
revient
faisant des ondes.
Oui.
Et pourtant, on évolue tous les jours avec autour de nous les ondes de télé, de radio, de bien Wi-Fi, sûr. De machin. Et je me souviens aussi du cas de gens qui disaient « Oui, j'arrive plus à dormir la nuit depuis qu'il y a une antenne 4G qui a été installée à côté de chez moi, j'ai le cerveau qui brûle. » L'antenne n'était pas active.
Oui. Bon.
Peut-être un peu le même phénomène avec la 5G.
Après, il est vrai que certaines personnes qui sont très très... Enfin, avec un nombre très très faible, seraient sensibles malgré tout. Électrosensibles.
Oui, c'est une pathologie qui a été reconnue d'ailleurs dans certains pays scandinaves, si je ne m'abuse.
Et puis après, d'autres disent aussi que la 5G, étant donné qu'elle va émettre sur des ondes qui sont millimétriques, ce qui n'est pas le cas de la 4G, pourrait avoir une incidence sur la santé, peut-être plus forte que la 4G, mais
alors, ils vont être servis avec la 6G parce que la 6G vise des ondes de terahertz, donc c'est encore au-dessus.
Le micro-ondes à côté, c'est un modem 56K, si vous voulez, donc je ne sais pas trop comment on va faire, les amis. Ouais. Bon, voilà pour la 6G avec Samsung, on enchaîne avec Twitter, et cette attaque sans précédent, une période de piratage sur Twitter avec quelques-uns des comptes les plus importants sur Twitter qui ont été piratés.
Ouais, ça a été semaine cataclysmique là pour Twitter. En gros, il y a eu 130 comptes. Twitter a confirmé le chiffre. 130 comptes de personnalités, alors très populaires. Hein, c'est Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West et aussi des marques comme Apple, Uber et des dizaines d'autres qui
pas
ont
Donald
été.
Pas Donald Trump, malheureusement. Enfin, alors, je veux dire malheureusement.
Oui, mais voilà. On se demande s'ils ont voulu s'attaquer au président des États-Unis.
Ah, peut-être.
Puis,
en tout cas, avec son concurrent.
Oui, tout à fait. Mais c'était vraiment massif et avec ce même message posté à chaque fois, c'est-à-dire la proposition d'envoyer des bitcoins à une adresse et qu'on allait rembourser le double en bitcoin. Alors,
j'imagine le tweet de Joe Biden, je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que c'est un bitcoin.
Non, mais c'est ça.
Il se retrouve avec ce tweet.
Mais c'est marrant parce que ça s'appuie sur un truc qui se produit déjà souvent. C'est des faux comptes qui se font passer pour Elon Musk avec un orthographe très très proche. Par exemple, Elon, mais avec un zéro à la place du O, Musk. Et c'est des gens qui récupèrent des comptes certifiés. Parce que du coup, l'illusion est quand même assez parfaite. Et il y a plein de gens comme ça qui se sont déjà fait dépouiller de beaucoup d'argent. Là, je crois qu'on parle de 120 000
dollars. Et alors voilà, ça marchait en partie parce que quand on peut tracer les mouvements de Bitcoin et on voit que les adresses en question, c'est autour de 120 000 dollars de bénéfices.
Sur
ces
tweets, on incitait les gens à investir des bitcoins et en fait, ils doublaient la mise. Hein, c'est ça.
Ils pensaient pouvoir doubler la mise.
Mais effectivement, c'était l'arnaque.
Donc il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau, qui ont investi de l'argent. Et donc, c'est un montant estimé à 120 000 dollars.
Voilà, à peu près.
Et ce qui est peu et beaucoup finalement.
Moi, je trouve que c'est peu. Parce que
c'est 13 bitcoins.
Elon Musk, il a 3 millions d'abonnés sur son compte. Joe Biden, il a des tonnes d'abonnés aussi. On aurait pu croire que ça aurait fait des dommages bien plus importants.
C'est tellement probable comme
proposition. Pas rester en ligne très, très longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que les gens, ils tombent tous pour ce truc. Tu te dis, c'est pas grave, je connais pas, mais on me promet de doubler la mise. C'est génial.
Ouais,
c'est un compte certifié.
Et
c'est d'ailleurs, en fait, tout.
Et c'est Barack Obama. Mais pourquoi Barack Obama parle de ça?
Mais c'est toute la crise que traverse Twitter à cause de ça. C'est qu'ils font des comptes certifiés. Donc tu te dis, l'information. D'ailleurs, on a déjà vu depuis longtemps qu'un compte certifié ne veut pas dire une information de qualité ou valable.
Non.
Mais tu te dis, je peux avoir confiance. Il y a plein d'abonnés, c'est certifié.
On peut être sûr, au moins, c'est cette personne qui s'exprime.
Je crois que c'est cette personne. Donc je suis pas en train de me faire avoir. Pas du tout.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors,
Est-ce qu'on sait comment ces comptes ont été piratés?
On commence à en avoir. Ça a l'air assez rocambolesque. Les premières infos faisaient état d'une attaque par ingénierie sociale, comme on dit. En gros, on n'a pas forcé les mots de passe en essayant plusieurs mots de passe d'affilée. C'est que les attaquants se seraient fait passer pour des personnes autorisées et auraient abusé de la crédibilité de certains employés Twitter qui auraient ouvert des accès à ces comptes-là. Ça, c'était la première piste. Ensuite, il y a eu le site américain Motherboard qui a dit, selon leurs infos, qu'un des employés de Twitter avait été payé pour ouvrir justement l'accès à ces comptes à un groupe de hackers. Ça, c'était la deuxième piste.
Et, ça, c'est grave.
Alors, c'est très grave. Et la troisième, là, qui commence à émerger, elle vient de Brian Krebs, qui est un chercheur en sécurité très connu, qui est un ancien journaliste du Washington Post, qui a fait un article assez génial, une enquête assez géniale sur son blog. Je vous invite à la lire. Et lui parle, en fait, d'un petit jeune qui a 21 ans, qui s'appelle Joseph James Connor. Il aurait réussi à remonter cette piste, qui est en fait un habitué de ce qu'on appelle le SIM swapping. C'est-à-dire, en gros, on arrive à se faire passer pour le numéro de téléphone de la personne. Donc, quand on fait une connexion à son compte, le double authentification, on va recevoir le code d'authentification
sur
son faux numéro, en fait, plutôt que la personne qui l'a. Et en fait, ce petit jeune, qui est de Liverpool, hein, aurait fait ça pour le compte de Jack Dorsey, le patron de Twitter, il y a l'année dernière, qui s'était fait pirater, et c'était grâce à ce principe-là. Et en fait, ça serait donc ce gamin, hein, ce petit jeune, qui aurait réussi à hacker de cette manière-là les comptes en question pour pouvoir encaisser cet argent.
Voilà. Donc on se rend compte que la double authentification par SMS qui se veut être l'authentification ultime, bah finalement c'est pas le cas, c'est même pire que s'il n'y en avait pas, quoi.
Pire non, parce qu'il faut quand même arriver à faire en sorte de subtiliser ce numéro de téléphone, donc c'est quand même pas donné à tout le monde.
Qu'il faut connaître aussi. En fait, tu dois connaître le numéro que tu veux subtiliser, tu dois connaître l'opérateur où se trouve le numéro, toutes ces étapes-là sont nécessaires pour ensuite se faire passer pour le client. Ouais. Je dirais, il me faut une nouvelle carte SIM. Et toi, du coup, c'est comme si j'utilisais ton numéro après un petit appel chez ton opérateur en me faisant passer pour toi.
Ouais, d'accord.
Ouais, et Brian Krebs, donc, ce chercheur, montre aussi que certains comptes qui sont liés à Joseph Connor avaient tweeté des captures d'écran de l'interface à laquelle ont accès les employés de Twitter, et dans laquelle ils peuvent aussi changer l'adresse email de contact. Donc, à partir de là, si lui a accès à ça et peut changer l'adresse email de contact,
On ouvre la boîte de Pandore et on fait ce qu'on veut.
Exactement. Donc, et le FBI a ouvert une enquête, Twitter a ouvert une enquête en interne, et donc on va voir ce qu'il en ressort, parce que c'est effectivement assez grave. Quand on imagine, comme tu disais, si le compte de Donald Trump se fait hacker, on peut lui faire dire n'importe quoi, et des choses très graves.
C'est déjà un petit peu le cas.
Alors un petit peu, mais voilà, s'il annonce une attaque nucléaire sur la Corée du Nord par son compte Twitter,
ça fait partie du genre de messages qu'il poste un peu tous les jours. Je suis pas sûr qu'on puisse faire bien mieux, bien pire que ces messages.
D'ailleurs, ne serait-il pas piraté le compte de Donald Trump depuis toutes ces années?
C'est le cerveau de Donald Trump qui a été piraté.
Enfin, en tout cas, coup dur pour Twitter.
Vrai coup dur et vraie crise de confiance avec une action qui a baissé, etc.
Évidemment. Tout à fait. On parle d'Apple maintenant et de ce vieux serpent de mer, de cette amende faramineuse de 13 milliards de dollars. Apple qui avait été condamné par la Commission européenne pour de l'argent qui, en théorie, aurait dû aller au fisc et qui n'y est jamais allé. 13 milliards. Et il y a eu un dernier rebondissement concernant cette affaire cette semaine.
Et pas des moindres, le rebondissement, puisque c'est un vrai revers pour la Commission européenne qui avait infligé cette sanction. En gros, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a annulé cette décision donc de rembourser ces 13 milliards de dollars. Les juges estiment que la commission n'est pas parvenue à démontrer vraiment, je cite, l'existence d'un avantage économique sélectif pour Apple. Alors, pourquoi? Parce qu'on vous rappelle que, effectivement, l'Irlande, pour séduire les entreprises et leur dire, venez chez nous, créez des emplois chez nous, font des taux d'imposition un petit peu à la carte. Et chez Apple, c'est vraiment le cas, puisqu'on estime que le taux d'imposition d'Apple est de 0,005% en Irlande au lieu de l'habituel 12,5%. Donc on voit l'avantage qui est donné à Apple.
Ils sont meilleurs en négociation que moi.
Voilà. effectivement, Apple avait profité de ce taux d'imposition pour rapatrier en Irlande l'ensemble des recettes qu'elle avait réalisées entre 2003 et 2014 pour justement payer presque pas d'impôts. Et c'est là que la commission avait dit non, c'est 13 milliards, il faut que vous les remboursiez. C'est pas vraiment une amende en fait, il faut que vous remboursiez ces 13 milliards à Irlande.
Vous nous devez cet argent.
Voilà, c'est ça. Donc on va voir la suite de cette décision, mais Margaret Vestager, qui est donc la vice-présidente chargée de la concurrence au niveau de la commission, elle déclare étudier ça. On va voir s'il peut y avoir des recours, parce que c'est vraiment un coup dur pour la commission
et, bien sûr,
et la politique de la commission.
Et la crédibilité de cette commission.
Exactement, qui est habituée du fait, qui avait infligé aussi ce genre de sanctions à Google, on s'en souvient, etc.
Donc, ils ont fait ça pour Starbucks aussi.
Oui, tout à fait,
Amazon est appelée,
aussi.
Elle est appelée Tax Lady dans le milieu, donc c'est assez drôle. Mais en fait, toutes les boîtes font ça, hein, Amazon au Luxembourg. Malheureusement.
Ils profitent des différences d'imposition, de la concurrence que font les États entre eux, en fait, au niveau des impositions pour attirer les entreprises.
D'un point de vue purement business, tu as du mal à leur reprocher d'aller à l'endroit qui est le plus avantageux pour eux.
Bien sûr.
Allez, non, choisissons le pays où
on paye le plus cher. C'est tellement sympa.
Après, le vrai sujet, et ça, c'est en tant que citoyen, nous, on doit se dire aussi, mais tout cet argent, pas que chez Apple, mais qui échappe aux pays dans lesquels ils opèrent, c'est de l'argent en moins, justement, pour les hôpitaux, pour toutes les infrastructures dont on s'est rendu compte qu'elles étaient assez critiques ces derniers mois.
Et dont on avait un petit peu besoin de temps en temps.
Donc,
d'où cette taxe GAFA, qui, là encore, au cœur de discussions vraiment très dures, entre, par exemple, la France et les États-Unis.
Tout à fait.
Puisque, évidemment, les États-Unis n'acceptent pas que la France puisse demander de l'argent comme ça aux GAFA. Bon, voilà, ça, là encore, c'est une histoire qui va durer encore des mois, voire des années. On reste du côté de chez Apple qui, bon, après avoir échappé à 13 milliards, va devoir payer quand même un petit milliard à Samsung.
Voilà, ça leur servira certainement
C'est pas grand-chose.
À payer cette petite pénalité envers Samsung. En fait, pourquoi Apple doit ce milliard de dollars à Samsung ? Parce que Samsung fournit des écrans OLED à Apple pour équiper ses iPhones.
Bah, si vous avez un iPhone, vous avez un écran, enfin un iPhone de dernière génération. Récent, vous avez un écran OLED Samsung.
C'est ça, et LG aussi en fait également pour Apple. Et bon, dans ce genre de contrat, on imagine qu'effectivement, c'est pas genre je vais à la boutique et je dis bonjour, je voudrais 14 millions de...
Ouais, voilà.
Et il y a des contrats qui sont sécurisés et Apple s'engage à acheter un tel nombre d'écrans auprès de Samsung. Et quand ce nombre-là n'est pas atteint, eh bien, il y a des pénalités qui tombent. C'est assez logique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les contrats commerciaux. Et ça a été le cas au second trimestre 2020, confinement, les ventes de smartphones baissent, les fabrications sont stoppées parce que les usines également sont stoppées. Donc forcément, il y a moins de demandes, forcément on achète moins d'écrans et on se retrouve à payer cette pénalité. Et c'est quelque chose qui était déjà arrivé à Apple l'année dernière. Apple avait dû payer 680 millions d'euros, à Samsung, pour la même chose, en fait. Donc, finalement, c'est la routine pour Apple.
Ouais, finalement,
un petit milliard par an à Samsung.
Ouais, mais c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir les écrans qu'il faut quand ils en ont besoin.
Exactement, ça sécurise la chaîne d'approvisionnement.
Ouais. Ce qu'il y a de dingue, c'est que je me demande pourquoi ils ne se servent pas finalement de ces écrans pour les autres générations de téléphones. C'est ça qui est bizarre.
Et avec les nouveautés qui peuvent arriver technologiques sur les écrans, s'ils utilisent des écrans d'anciennes générations.
C'est vrai qu'après, les précédentes générations ne sont plus produites.
C'est ça.
Finalement. Donc, ils préfèrent écouler les stocks que de se servir des écrans.
Mais bon, c'est quand même une sacrée pénalité. Petit milliard de dollars, on ne peut pas se dire que c'est...
Oh. Ouais, ça c'est clair que c'est
non, mais je pense que ça va aussi les amener à réviser la façon dont ils font leurs contrats avec certains fabricants. C'est une énorme somme d'argent. Leur chiffre d'affaires à l'année, c'est 270 milliards de dollars. Si tu dois payer 1 milliard de dollars, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Ils vont clairement réévaluer effectivement les contrats.
Cela dit, c'est pas rien, mais c'est j'imagine un partenariat tellement stratégique pour Apple de pouvoir fonctionner avec Samsung que finalement...
Imaginez l'argent qu'Apple aurait perdu s'ils n'avaient pas pu avoir assez d'écran pour fournir des téléphones.
Je suis persuadé que ça, c'est un chiffre qu'on nous balance comme ça.
Bien sûr.
Mais évidemment, il y a d'autres qui doivent avoir tellement de subtilités. Je suis sûr que Apple va récupérer cet argent-là.
Tout l'article qui vient d'un média coréen dit, en fait, Apple pourrait avoir à payer 1 milliard de dollars. Mais dans le cadre d'une transaction commerciale avec un partenaire, tu t'amuses pas forcément à taper non plus sur les gens qui sont... Un chien ne mord pas la main de son maître.
Non.
Et j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'ils aient envie de prendre 1 milliard pour qu'Apple dise ensuite.
Oui, voilà, c'est ça. Et on sait qu'Apple a très envie de se séparer de ses plus grands fournisseurs. Donc je pense que
Apple travaille sur le micro LED pour les prochaines générations et voudrait effectivement fabriquer ses propres écrans.
Allez, on passe maintenant à l'appli Contact Tracing que vous avez peut-être installé. Alors statistiquement, si vous nous regardez, vous ne devez pas être très nombreux à l'avoir installé. C'est bien dommage d'ailleurs. Moi, je l'ai installé sur mon iPhone. On a quelques chiffres concernant cette application qui est l'appli Stop Covid.
Tout à fait. Alors nouvelle estimation cette semaine, d'après une étude du cabinet d'analyse Sensor Tower, seulement 3,1% de la population française aurait installé cette application Stop Covid. On se souvient souviens déjà que le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État numérique Cédric O, avait fait une sorte de constat d'échec fin juin, et il avait annoncé qu'il y avait seulement 14 personnes qui avaient été alertées grâce à Stop Covid. Et on voit effectivement que cette étude montre la faible popularité de l'application. Alors le chiffre français est très bas, mais il n'est pas vraiment brillant pour les autres pays qui ont été étudiés. Il y a eu 13 pays analysés, donc presque 2 milliards d'habitants, et en moyenne c'est 9,3% de la population qui a installé cette application.
C'est un peu mieux quand même.
C'est un petit peu mieux, soit environ 173 millions de personnes sur ces 2 milliards. Donc mention spéciale à l'Australie, hein, qui arrive à quand même 21% d'installation. Voilà.
Bravo.
Bravo. Par contre, Philippines, ils s'en fichent complètement, c'est 0,2%. Hein, donc voilà, ça, on n'est pas les bonnets d'âne, mais pas loin.
Ça fait, je regardais avec ma petite calculatrice, hein, ça fait 2 millions de Français qui ont installé l'appli sur 67.
Mais moi, je me dis, ça a été un tel échec de communication et de stratégie.
Oui,
le gouvernement est déjà pas génial en général quand il s'agit de faire développer des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez du logiciel de paiement des armées qui a un gouffre financier, etc. Bon, là, c'est un projet qui a été mené par des sociétés externes, mais toute cette com qui a embrouillé l'esprit des gens entre on ne veut pas bosser avec Apple, on ne veut pas machin, plus toutes les fake news sur oui, on va vous suivre à la trace.
Oui.
À savoir
exactement
tout ce que vous faites, etc.
Cela dit, attention, on est en train de voir qu'il y a un rebond de l'épidémie. Peut-être que le nombre de personnes qui utilisent cette application va bondir dans les semaines ou les mois qui viennent.
Ça redonnera envie de l'installer, peut-être effectivement.
Peut-être. Ouais. On va parler maintenant de recharge rapide. Que dis-je, recharge rapide? Recharge
ultra
rapide.
Ah, oui.
Bah, tu parlais d'avoir son cerveau qui fond.
Faut pas rester à côté pendant qu'il charge.
C'est Oppo qui est un peu le spécialiste de la charge depuis pas mal d'années maintenant. Il communique souvent là-dessus. Et là, ils ont lancé un truc, ça fait un peu peur.
Cette semaine, c'est une nouvelle version donc, de leur système qui est baptisé SuperVOOC, avec une flash charge, comme ils appellent ça, de 125 watts. Donc le chargeur en fait, permet de charger une batterie de 4000 mAh, donc une batterie assez conséquente d'un bon smartphone, en seulement 20 minutes. Donc c'est assez... assez hallucinant.
En partant de zéro, le téléphone est éteint, il n'a plus de batterie.
Il est à 100% en 20 minutes, donc c'est assez extraordinaire. Et en plus de ça, il y a aussi un système, le AirVOOC, qui là est un système sans fil, par induction, qui lui le permet en 30 minutes. Là aussi, c'est une super performance, parce qu'on sait que l'induction, ça génère beaucoup de déperdition. Et quand on arrive à faire ce genre de choses, on voit que tout a été pensé autour de ça.
Le chargeur à induction à 65 watts, j'imagine les ondes électromagnétiques autour là. Ouais, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant.
Clairement, et effectivement, on voit que le constructeur a vraiment pensé tout ça, parce qu'il y a par exemple un système, il y a 13 capteurs qui vont être placés dans le smartphone qui en gros surveillent la température. Il y a des puces qui sont dans les câbles et dans le chargeur pour être sûr que c'est exactement le bon accessoire qui est utilisé pour pas que ça chauffe. Le câble est spécial.
Il y a un extincteur intégré dans le téléphone. Si vous entendez
ça pourrait, mais effectivement, et on s'est rendu compte quand on fait les tests en labo, notamment notre collègue Nicolas Lelouch, que finalement ce sont des téléphones qui chauffent beaucoup moins certains quand ils sont en charge. C'est ça qui est assez extraordinaire.
Parce que c'est malin, il y a deux batteries en fait.
Voilà,
c'est
parce qu'il y a deux batteries qui permettent justement de répartir l'intensité entre les deux accumulateurs, donc ça chauffe pas forcément d'un coup. C'est assez malin, c'est très bien fichu. Pour l'instant, on sait pas encore quel smartphone aura ce système-là, mais Oppo est un coutumier du fait, ils annoncent d'abord ce système-là et le smartphone qui va arriver bientôt haut de gamme l'intégrera bientôt.
C'est rigolo d'ailleurs de la part d'une marque de téléphonie mobile de ne pas vraiment communiquer sur un téléphone produit, mais sur une technologie de recharge.
Il se place en leader de la techno elle-même et en se disant, on se focalise pas en disant ça va ne bénéficier qu'à un produit mais ça sera peut-être toute une gamme. C'est pas con, surtout si t'as pas beaucoup d'autres choses sur lesquelles communiquer, tu peux faire un peu le buzz sur ta techno de charge. Et je me dis, à défaut de réussir à vraiment améliorer les capacités de batterie des smartphones, on a réussi à améliorer les capacités de charge qui permettent de faire qu'en le posant 5 minutes pendant ta pause déj,
c'est ça.
T'es reparti pour le reste de la journée, c'est pas mal.
Bon, il y a la maison qui disjoncte, c'est ça le problème.
Oui, et ton téléphone est en lévitation au-dessus de ton chargeur.
Enfin, si t'allumes le fer à repasser, plus tu recharges ton Oppo, là c'est terminé. EDF ferme.
Il faut être en triphasé chez toi pour pouvoir charger deux smartphones. Non, mais c'est pas mal quand même.
On plaisante, mais c'est une belle prouesse technologique. La PlayStation 5, alors là, on est de plus en plus nombreux à l'attendre, cette console, parce que c'est vrai que les images qu'on voit, les teasings à droite à gauche sont quand même assez ahurissants.
Complètement.
Et Sony se prépare part tranquillement, visiblement.
Oui, même accélère le pas, parce que Sony, on a toujours un peu peur avec les lancements de PlayStation d'une pénurie. On sait que Sony, des fois, orchestre un petit peu ça, justement, pour faire un petit peu le buzz autour de sa console. Mais cette fois-ci, on dirait que Sony veut vraiment produire beaucoup de consoles. On sait que les premières prévisions de production étaient de 5 à 6 millions d'exemplaires pour le lancement et les semaines suivantes. Là, manifestement, d'après les sources sur place dans les usines, on est entre plutôt 9 et 10 millions d'exemplaires qui seraient produits, donc le double pour ce lancement-là. C'est effectivement une anticipation d'une demande importante, mais Sony aussi se dit qu'on va profiter du moment d'une accalmie post-Covid pour profiter que les usines soient ouvertes, pour en produire le plus possible, parce que si jamais il y a encore un souci de confinement, un rebond de l'épidémie, etc., on aura du stock pour pouvoir fournir la demande, qui sera certainement en plus plus haute, puisqu'ils sont
les gens que
pendant
confinés.
Le confinement, ils ont vendu beaucoup de jeux vidéo.
Espérons qu'on ne soit pas encore confinés.
Tout à fait, mais c'est aussi une anticipation de ça.
Ouais. Donc, c'est intelligent.
C'est plutôt intelligent de la part de Sony.
Mais je pense qu'il y a plein d'industriels qui font ça. Hein.
Oui, je pense.
Apple doit commencer
certainement.
Certainement. Faire des petits iPhones en loose day, là, histoire d'attendre...
C'est sûr, et effectivement, on voit que voilà, Sony anticipe cette demande qui sera certainement assez importante de sa console, qui sera disponible a priori donc à l'automne. Hein, enfin,
oui, mais il n'y a toujours pas de date de sortie annoncée.
Bon,
on peut se dire qu'ils sont en train de se préparer pour Noël.
Sûrement.
Oui, elle sortira
un petit peu avant Noël.
Dans la dernière ligne
ça
droite
sort le mois d'octobre ou quelque chose comme ça.
Avec,
que ce soit...
vous le voyez, deux consoles disponibles. Hein, une version Blu-ray et puis une autre version qui serait complètement...
Digital Edition.
Voilà,
qui ne joue
on-air.
Jeux téléchargés.
Que des jeux téléchargés.
À réserver aux bonnes connexions fibre optique à la maison, parce que télécharger des jeux...
Ah bah, elle est compatible 6G, on en parlait d'ailleurs avec Samsung.
Oui.
En fait, le jeu se télécharge avant qu'on pense à le vouloir. C'est ça qui est...
Oui, avec l'intelligence artificielle.
Très très fort.
On peut tout faire.
C'est Microsoft qui vient d'annoncer d'ailleurs l'arrêt de sa Xbox One X.
Oui.
Parce qu'évidemment, Microsoft va sortir aussi sa nouvelle console, qui fait un peu moins le buzz, hein, j'ai l'impression quand même.
Oui.
Et ils sont en train de décimer en fait la génération précédente. On verra bien un petit peu, là encore, le match Xbox PlayStation 5. Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Zanfrit, Zeronet, Gonzague. Merci.
Un plaisir, toujours.
Gonzague, qu'on peut retrouver évidemment sur son blog, sur tous les réseaux sociaux, etc.
Mon prénom, inexplicable.
Gonzague. Voilà, mais au moins c'est original et on n'oublie pas. Hein. C'est pas comme François. Vous restez avec nous. Marc aussi, c'est un prénom assez commun, on va dire. Mais vous allez voir que la personne que je reçois n'est pas du tout commune. Marc Simoncini. Dans un instant, donc, pour la suite de ce De quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur RMC et 01TV. RMC, 01TV, François Sorel, De quoi je me mêle.
Voilà, c'est le retour de quoi je me mêle. Merci d'être là, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de 01TV, sur 01TV.com et sur les box aussi, puisque vous le savez, 01TV, c'est dorénavant une vraie chaîne 24/24 sur la tech, la première chaîne de France d'ailleurs sur ce sujet. Je reçois un invité que j'apprécie énormément. C'est rare que je le dise, parce que c'est vrai que c'est un entrepreneur que je suis depuis de très nombreuses années et que j'ai interviewé il y a déjà très longtemps, et qui revient aujourd'hui. Il n'a pas bougé d'un iota, alors que moi j'ai beaucoup bougé depuis. C'est Marc Simoncini. Bonjour Marc.
Bonjour.
Marc Simoncini, entrepreneur français qu'on a découvert il y a plus de 20 ans avec e-France, mais aussi Mythique. C'était à l'époque où on s'était rencontrés, Marc. Et De quoi je me mêle existait déjà à l'époque. Et vous étiez venu nous expliquer le concept de Mythique à l'époque. Succès incroyable derrière.
Ouais.
Beau succès quand même. Hein.
E-France,
Mythique,
incroyable.
Deux gros succès d'affilée. Et puis bon, tout ça c'est du passé hein, derrière.
Oui.
Voilà, vous avez tourné la page avec des succès, mais aussi des échecs.
Ouais.
Et ce qu'il y a d'intéressant,
beaucoup.
Ce que j'apprécie chez vous, c'est que voilà, des échecs pour vous, ça permet de rebondir, de se rendre compte qu'on a fait des erreurs pour ne pas les reproduire après. On va en parler d'ailleurs avec quelque chose qui ne sera sûrement pas une erreur, c'est ce vélo pour lequel vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des machines à damer. Il y a eu
justement, je vais vous expliquer comment, en ayant échoué dans les dameuses.
J'ai réussi un vélo.
C'est génial. Et puis il y a eu plus récemment un truc pourtant qui vous tenait à cœur, je me souviens, parce que je vous avais interviewé, c'était Sensi.
Ouais.
Vous étiez parti dans la croisade des lunettes pas chères.
Une croisade.
Et puis mine de rien, peut-être un mot là-dessus, vous avez jeté l'éponge. Parce que c'est compliqué de se battre contre les grands opticiens français mondiaux.
Non, en fait, on voulait que l'optique devienne légale en France. On a gagné, on a fait condamner la France à la Cour européenne pour avoir le droit de vendre des lunettes et des lentilles sur Internet. Ça nous a pris 7 à 8 ans. Déjà pour
et beaucoup d'énergie, j'imagine.
Beaucoup d'énergie. Et une fois qu'on a eu le droit de faire ça, on a entamé un deuxième combat qui était de dire que les lunettes étaient trop chères en France et que l'État plafonne le remboursement des lunettes. On a gagné ce deuxième combat. Tout ça, ça a pris 9 ans. Et pendant ces 9 ans, ayant fait voter ces lois, ayant fait mettre la France en conformité sur l'optique, on a essayé, nous, de vendre des lentilles et de vendre des lunettes. On a très bien réussi sur les lentilles, on est parti de 5 ou 6 millions de chiffres d'affaires, on a fini à 30. En revanche, on n'a pas réussi à faire la même progression sur les lunettes, pour une bonne raison, c'est que même quand on rembourse des lunettes à 100 euros, comme c'est le cas aujourd'hui, bah, c'est toujours des lunettes que les opticiens achètent 5 euros en Chine.
Oui, c'est ça.
Donc ça ne marche pas. Voilà. Et en fait, on a misé sur le Made in France. D'ailleurs, on peut encore parler de l'échec des lunettes pour le vélo. On pensait qu'en vendant des lunettes pas chères, faites en France, en origine France Garantie, ça inciterait le consommateur à acheter celles-ci plutôt que des chinoises au même prix. Bon, en fait, le consommateur, il n'en a rien à faire. Il achète des lunettes, elles sont remboursées, et il n'en a rien à faire de savoir si elles sont faites en France.
Ça vous énerve, ça ?
Ben non, mais ça m'a appris que mettre en avant le fait que le vélo est fait en France, par exemple, ne servira pas à le vendre. En théorie, les gens trouvent tous formidable. Ouais. Oui, c'est super.
Oui, c'est génial, on le dit ça, mais on s'en
mais
fout.
Mais ils n'en ont rien à foutre.
Pourquoi ?
Bah, c'est un des délicieux paradoxes des Français, quoi, qui vous demandaient s'ils aimeraient que les supermarchés soient ouverts le dimanche. Ils disent tous oui. Bah, tu vas bosser le dimanche, alors non. Bah, on va pas ouvrir le dimanche, alors. Bon, bah là, c'est un peu pareil. On veut bien faire en France. Ah, mais faut pas que ce soit trop cher. Bah oui, mais il faut choisir, quoi.
Ça fait un peu penser à la 4G et la 5G. On veut de l'Internet.
On n'a pas commencé qu'on est déjà perdu.
On veut de l'Internet, mais on veut pas d'antenne.
Voilà. Où il y a un débit, de merde, mais je veux pas d'antenne parce que c'est dangereux si ça va plus vite. Ah, bah oui, mais on fait quoi, alors? Bon, voilà, c'est la France. Mais bon. On y est bien.
Oui, on est bien. Et puis au-delà de tout ça, vous faites pas mal pour plein d'entrepreneurs. Vous avez investi dans combien de startups, vous savez ou pas?
Alors,
vous savez exactement combien de startups?
Alors je vais être honnête, non. Selon les comptages, je vais entre 110 et 40. Pourquoi 110? Parce qu'on a lancé un concours, on en a financé une centaine d'un coup. Donc là, forcément, ça fait un gros stock. Non, en gros, j'avais 110, 120 lignes. Aujourd'hui, il m'en reste 40. Et sur ces 40, il y en a 4 ou 5 dont je m'occupe vraiment. Donc vous voyez, on part quand même, c'est en entonnoir. Mais enfin, dans toute ma vie, j'ai dû investir dans 200 ou 300 startups. Là, je vous parle des startups que j' ai aujourd'hui, mais dans celles d'avant, disons 200 ou 300, mais je n'ai jamais compté. Non.
Avec un pourcentage d'échecs ou de réussites qui était prévisible ou pas? Ou vous avez eu des surprises?
Alors, ce que j'ai fait moi, on est quelques-uns à l'avoir fait, c'est complètement inconscient, parce que j'ai à peu près mis tout l'argent que j'ai gagné en vendant Mythique dans des startups. Quand vous mettez une base 100 euros dans des startups, dans les 3-4 premières années, vous allez perdre 60. Vous allez déjà perdre 60% de ce que vous avez mis. Et avec ce qui reste, si vous êtes bon, vous récupérez les 60.
Non, ah ouais, même
si
pas.
Vous êtes bon, vous récupérez les 60. Si vous êtes très bon, ben vous êtes à 100, 110, et si vous avez beaucoup de bol, vous êtes à 200. Voilà. En gros, faire ça avec son argent, il faut être complètement inconscient. Mais maintenant que je le fais dans un fonds réglementé avec l'argent des autres, je suis très content d'avoir appris à le faire avec mon argent pendant 10 ans avant. Parce que les gens qui me confient leur argent aujourd'hui pour que je le gère dans les startups, j'ai essuyé suffisamment de plâtre et de pots cassés pour leur expliquer comment ça va se passer et pas reproduire les mêmes erreurs.
Alors, vous avez été fortement médiatisé l'année dernière sur M6 avec l'émission Qui veut être mon associé.
Ah oui.
Quelle expérience tirez-vous de cette d'être un entrepreneur qui écoute des projets et qui doit choisir?
Ça m'a fait marrer parce que j'ai juste fait mon métier sur un plateau.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Donc pour moi, c'était mon métier, quoi. Alors après, la différence, c'est que les dossiers qui arrivaient, je ne les connaissais pas, donc je les découvrais. Je n'avais pas le premier filtre. C'est sûr que m'envoyer sur un plateau avec des gens qui font des peluches pour les bébés qui font coin-coin quand on appuie, c'est super, mais moi, j'y connais rien au bébé coin-coin. Donc, je n'aurais pas vu dans la vie normale celle-là. Bon, là, je l'ai vu, donc on va un peu infliger des dossiers. Mais bon, en fait, on vous inflige des dossiers de sujets qui ne vous intéressent pas. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est de voir l'entrepreneur qui est derrière. Parce que c'est toujours des histoires dingues de la dame qui s'embêtait puis qui a fait son bébé coin-coin.
Oui, bien sûr.
Bon, donc c'est des belles histoires humaines.
Oui, c'est un peu le concours Lépine finalement à des moments.
Oui, bah, il y a aussi des très belles startups. Ouais,
bien sûr.
Non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa.
Ça va repartir ou pas
je ne sais pas, parce qu'après tout ce qui s'est passé avec le Covid, le prix des grilles, les chaînes, je ne sais pas ce qu'elles font, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'informations.
Le Covid, justement, un mot sur cette période qui, évidemment, a ébranlé tous les pans de l'économie, et notamment les startups aussi, qui ont beaucoup souffert. Comment rebondir ? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont en difficulté, alors, startup ou pas ? Comment repartir du bon pied et comment essayer de remonter en selle ?
On me l'a donné, on m'a interviewé 4 ou 5 fois, j'ai essayé de synthétiser, je ne veux pas être assommant, mais admettons que ce soit la vraie crise, on est en période de confinement, c'est une catastrophe pour la boîte. La règle numéro 1, c'est de compter le cash et de plus en sortir. La règle numéro 2, c'est de prendre l'entreprise, de regarder tous les projets qu'elle est en train de développer. Dans chaque boîte, vous avez 100 projets en cours. Mais si objectivement vous regardez quels sont les 10 projets qui produisent 80% de l'effet, vous êtes capable d'arrêter les 70 autres projets qui sont sympas, mais qui ne sont pas fondamentaux. Donc deuxième truc, c'est ok, on avait un rêve de tout faire en même temps, on va arrêter notre rêve, on va se concentrer sur les deux sujets qui nous font survivre ou pivoter. Et la troisième conséquence, malheureusement, c'est que si on a fait ça, de qui on va se séparer ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10, 15, 20 personnes sur des projets qui ne sont pas vitaux. Dans un monde idéal, c'est super, mais en monde de crise, on est obligé de les arrêter. Donc, la troisième truc, c'est qu'est-ce qu'on fait
Se séparer de
donc, le cash, les banques, les prêts, les subventions, la révision du business plan. Puis, il y a une dernière question, mais qui est fondamentale, c'est est-ce que le produit sur lequel je suis en train de travailler depuis 3 ans existera toujours dans le monde d'après.
A toujours du sens.
Parce que peut-être que ça fait 5 ans que vous bossez sur un truc, le Covid arrive, et vous dites, attends, mais moi, ce projet-là, il ne marchera plus dans le monde d'après, donc arrêtons les frais ou faisons autre chose.
Le télétravail, un mot là-dessus, ça a été à marche forcée pour des boîtes qui ne voulaient pas faire du télétravail. Ouais. Est-ce que le télétravail va, à votre avis, perdurer quand on sortira, et on imagine et on souhaite de tout cœur qu'on sorte de cette période, après, l'après-Covid.
Mais moi, je pense qu'on ne va jamais sortir. Pourquoi ? Parce que même si on sort de la crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec le virus ? C'est que ça nous l'a mis dans la tête. On sait que c'est possible. À partir du moment, moi je dis toujours, je crée des boîtes depuis que j'ai 22 ans, j'ai envisagé tous les cas. Mes usines qui brûlent, les clés. Oui. On essaye de penser à tout. Je n'ai jamais imaginé une pandémie. Maintenant, je lance Angel. J'ai la pandémie dans la tête. Je sais que demain, on peut être confiné. Donc, si on est confiné, comment on fait ? On est en télétravail, j'ai une deuxième usine, mais je suis en circuit court, je suis tout en France.
Pierre, vous avez sécurisé le scénario
J'ai intégré confinement. Le risque confinement, d'accord. Pandémie, dans la stratégie de mon entreprise. Donc, une des solutions, pour revenir à votre question sur la gestion d'une pandémie, c'est le télétravail. Donc, le télétravail, c'est pour toujours. Pour toujours, on va devoir, en tout cas, être prêt. Si un jour on est confiné, appuyez sur un bouton et l'entreprise passe en mode télétravail instantanément et continue sa vie. Donc on va l'intégrer et ça fera partie de notre vie pour toujours.
Le paradoxe dans cette histoire, c'est que ce confinement est là pour promouvoir en fait ce que vous venez nous présenter aujourd'hui finalement. Parce que, et c'est ça qui est étonnant dans la vie, c'est que évidemment, le Covid a mis à mal des milliers d'entreprises et ce n'est pas fini, mais fait émerger de nouveaux usages et va donner la chance à de nouvelles boîtes. On le voit avec Zoom, enfin au niveau international, avec Teams, Microsoft, etc., toutes les boîtes qui font du télétravail. Il y en a plein d'autres d'exemples. Et le vélo, qui existe depuis la nuit des temps, personne n'était intéressé par le vélo avant le Covid, ou enfin très peu. Là, d'un coup, vous voilà sous les projecteurs avec ce vélo. Donc finalement, le Covid, là, a un impact positif pour vous.
Vous savez, quand on dit que quand on réussit un projet et qu'on demande pourquoi tu as réussi, la principale réponse est le timing. Moi, ce projet, il y a 3 ans que je l'ai dans la tête. On a démarré le développement d'Angel il y a 3 ans. Pourquoi ? On ne s'est pas dit qu'il y avait un Covid. On s'est dit, les villes telles qu'on les connaît, elles sont insupportables. Et donc, le pari qu'on fait, c'est qu'elles vont être modifiées. Comment elles vont être modifiées ? On va enlever les voitures thermiques individuelles des centres-villes. Et si c'est ça, alors il faudra trouver un moyen de remplacement pour la locomotion sur les trajets courts. L'idée, c'était de dire, l'avenir va changer, il faut proposer un moyen alternatif à la bagnole qui te permette de te déplacer simplement et de manière agréable en ville. On est parti là-dessus. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas le Covid, c'est les grèves. Les grèves, les gilets jaunes, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur des vélos et quand ils sont descendus, ils ont dit « Waouh, c'est génial, j'adore le vélo ». Première vague, et là, c'était notre pari. Ensuite, qu'est-ce que font les municipalités? Elles mettent des pistes cyclables, elles enlèvent les voitures et Angel décolle.
Donc, et la pollution, bien évidemment.
La pollution, l'environnement. Et là, on est déjà sur un truc de dingue. On a en peine lancé le projet et on se dit « Waouh, on va réussir à vendre 1500 vélos cette année parce qu'il y a une énorme traction ». Le Covid arrive. Alors là, les gens disent, c'est fini, les voitures...
C'est-à-dire que vous prévoyez de livrer, avant le Covid, 1500 vélos.
Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit atelier, dis, j'embauche des mécanos, on fait nos vélos, c'est des pré-séries, on les sort, machin.
Je commence comme ça, tranquillement.
Je commence tranquille. Le Covid arrive, on explose, et les commandes, quand on multiplie le nombre de commandes par jour par le nombre de jours qu'il y a dans une année, plus ce que la FNAC nous achète, plus les 10 000 tests qui sont réservés de gens qui veulent l'essayer avant même de l'avoir vu, on a 10 000 tests. Sans compter ces 10 000 tests, on est sur un train d'à 10 000 vélos en année 1. Admettons que je convertis 50% des gens qui testent, ça fait 15 000 vélos. Donc on est passé de 10 000 vélos, de 1 500 vélos à 15 000. Et là, on rentre dans un autre monde. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'avoir raté les dameuses m'a permis de réussir Angel? Parce que le jour où j'ai vu ça, et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer un industriel, un vrai, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez faire les vélos avec moi, je le fais avec vous parce que moi, je sais les concevoir.
On va en parler.
Moi, je sais les concevoir, je sais faire les logiciels, mais quand même, quelqu'un capable de construire 15 000 vélos par an, c'est un métier de dingue. D'ailleurs, si vous écoutez Elon Musk, quand il dit pour Tesla, c'est pas compliqué d'avoir fait la Tesla pour lui. Ce qui est compliqué, c'est d'en produire 30 000 par semaine.
Bien sûr. Il a mis des années d'ailleurs
à
arriver à avoir son rythme de croisière.
On ne peut pas imaginer la complexité. Donc Seb prend cette partie, décharge Angel de la partie industrielle et moi je fais mon vrai boulot qui est d'imaginer de nouvelles fonctionnalités, des designs, etc. Mais si je n'avais pas échoué dans les dameuses, en ayant des usines qui fabriquaient des machines de 10 tonnes et en voyant la complexité que c'était de gérer des dameuses de 10 tonnes, je n'aurais jamais compris que je n'étais pas capable de faire des 15 000 vélos par an.
Et vous ne sauriez pas aller voir Seb le départ, en fait, pendant le confinement.
Alors,
tout ça s'est
Seb, c'est une rencontre fortuite parce qu'on s'est vu sur un autre sujet. On a très vite parlé du vélo, mais je savais parce que j'avais échoué dans les dameuses
qu'il fallait
que je signe avec un industriel.
Voilà.
Donc, comme quoi, le plus gros échec financier que j'ai vécu avec des dameuses,
m'a servi.
Finalement, m'a servi
à rebondir correctement
et d'en faire une boîte extraordinaire aujourd'hui.
C'est dingue.
Donc, les échecs, c'est bien d'en parler parfois.
Mais voilà. Alors Angel, ce vélo qui est sur le plateau, ceux qui nous regardent en vidéo peuvent voir des petites, en situation à quoi il ressemble ce vélo. Pourquoi ? Alors on sait maintenant pourquoi vous avez envie de lancer un vélo, parce que il y avait au départ aussi une notion, on va dire, écologique. Parce que je sais que vous êtes très engagé sur pas mal de sujets.
C'est enlever la pollution dans les villes, rendre les villes silencieuses. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans le confinement qui est extraordinaire, c'est que les gens ont découvert le silence. Vous étiez chez vous, vous ouvriez les volets, les fenêtres et il y avait des oiseaux. Et un mois après, vous ouvrez le truc et il y a des sirènes de bagnoles, des bagnoles, des scooters et trucs. Je pense que le jour où on proposera une ville silencieuse aux gens, ils seront très heureux. Donc il y a déjà le silence, il y a la pollution et puis il y a la circulation. Je veux dire, les bouchons sont infernaux. Donc de toute façon, la ville, elle n'est pas vivable. Donc le vélo électrique, c'est le meilleur moyen de circulation dans un centre.
Mais Marc, je vous coupe, des vélos électriques, il en existe des milliers aujourd'hui.
Il en existe des millions.
Il
y en a partout.
De 1000 euros jusqu'à 10 000,
il y en a partout.
Et voire même plus. Il existe.
Pourquoi
arriver sur ce segment qui est hyper concurrentiel?
Pourquoi les gens n'achètent pas de vélo ou se disent j'en ai marre, je sais. Parce que, un, ils se les font voler, parce que, deux, ils disent que c'est dangereux. Donc, les deux principaux freins à l'achat d'un joli vélo, c'est le prix et la sécurité. Donc, quand on a conçu Angel, on est parti d'une feuille blanche, on dit le vélo, il faut qu'il soit le plus sûr du monde sur la sécurité du pilote et le plus sûr du monde sur le vol. Et quand on s'est mis à dire comment on va rendre un vélo sûr, on a dit il faut beaucoup d'électronique. Et donc on est passé dans la deuxième étape du truc en disant on va pas faire un vélo électrique, parce qu'un vélo électrique, à part mettre un cadenas, il sait rien faire. On va mettre beaucoup de logiciels et d'intelligence dans le vélo. 70% du travail qu'on a fait depuis 3 ans, c'est pas le vélo, c'est le soft et l'électronique qui est embarquée dans le système.
D'ailleurs, vous dites que c'est un peu l'iPhone du vélo.
Et donc, on a fait un smart bike. Ce n'est pas un vélo électrique, c'est un smart bike. C'est de l'intelligence, un écran, de la mémoire, des systèmes de communication dans le vélo, et qui va faire que le vélo va être quasi involable et beaucoup plus sûr sur la circulation.
Alors,
et en enlevant ces deux freins, on a gagné. Parce qu'aujourd'hui,
vous n'avez pas enlevé les freins du vélo, quand vous dites vous...
Les freins à l'achat.
Parce que là, en termes de sécurité, on n'est pas couché.
Non, on a mis des très bons freins.
En plus. Alors, c'est quoi la technologie sur ce vélo?
Alors, il y en a beaucoup.
Par exemple, en commençant peut-être par la sécurité.
Allez. Bon, bah, alors, la sécurité contre le vol. Donc, c'est un vélo qui, pour pouvoir fonctionner, est appairé à un téléphone. Si vous n'avez pas le téléphone et le code du téléphone, le vélo ne s'allumera jamais. Donc, vous pouvez voler ce vélo, mais enfin, il se rallumera, l'écran ne s'allumera jamais. Donc, vous avez volé un vélo qui ne marche pas.
Si donc, il faut que je me rapproche pour que je comprenne bien. Je me rapproche
du... Il vous reconnaît, il s'allume.
Automatiquement.
Tout seul. Après, il peut être 5 utilisateurs, 10 utilisateurs sur le même vélo, à condition d'avoir été enregistré par le propriétaire comme utilisateur du vélo.
Et si je n'ai pas l'appli, si je n'ai pas le code, le vélo, je
alors là, vous l'allumez et il y a un mot de passe sur l'écran de l'iPhone.
D'accord. Que je peux taper à l'écran si je n'ai pas le smartphone.
Voilà, et là, le vélo démarre, roule.
Et si je n'ai pas ce code?
Ah, bah là, vous n'avez plus de vélo.
D'accord.
Donc si votre vélo est allumé dans la rue, vous avez laissé la batterie, quelqu'un passe, veut le mettre en route, il tape le code, au bout de 3 essais, le vélo est bloqué. Donc, bon. Ensuite, vous prenez un café, vous posez le vélo, vous n'avez pas le temps de mettre l'antivol, ça vous saoule, vous êtes assis à table et le vélo est là, il est verrouillé puisque vous êtes éloigné. Quelqu'un touche le vélo, il y a une sirène qui sonne, qu'on a entendu tout à l'heure, vous recevez une alerte sur votre téléphone en disant « quelqu'un touche votre vélo, oh, bon, bah, c'est une erreur, vous l'éteignez » ou « merde, c'est un voleur, vous le traquez ». Si le voleur qui a volé un vélo qui ne marche pas et qui sonne pendant 4 ou 5 minutes part avec le vélo sur le dos, admettons, on peut toujours trouver des gens...
Il va se faire remarquer quand même.
Bah, un, il se fait remarquer, deux, le vélo ne marche pas, trois, ça sonne, compliqué. Mais vous, vous le suivez sur une carte. Donc là, le voleur, il est malin, il dit hop, je vais enlever la batterie, elle est verrouillée, donc je vais la casser. Comme ça, quand j'ai cassé la batterie, le vélo va arrêter de sonner et va plus être géolocalisé. Pas de bol, il y a une batterie cachée quelque part dans le vélo qui l'alimente pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, votre vélo, il va sonner, il va être géolocalisé sur une carte et il démarrera toujours pas. Donc franchement, pour aller voler un Fallen Angel, il faut qu'on ait décidé de vous emmerder, quoi.
Il faut le pirater. Enfin, il faut
alors,
le hacker.
Il va falloir le hacker.
Voilà.
Bah, le jour où on sera hacké, c'est qu'on aura réussi un truc de dingue. Parce d'accord. Qu'avant que les hackers...
Mais c'est la seule solution.
La seule solution.
Et on sait que ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
S'il y a des petits fous d'informatique qui s'y intéressent, ils
La première fois qu'on apprendra qu'il y a un vélo Angel hacké, on changera le logiciel. Le logiciel se met à distance on-air en batch.
Donc il y a une puce 4G dedans. Comment ça marche?
Il y a une puce 2G, il y a du Bluetooth.
Une puce 2G.
2G, du Bluetooth. Ça suffit pour télécharger l'OS. Du Bluetooth et un GPS.
D'accord.
Et donc, le vélo, bah, pendant 3 semaines, vous savez où il est sur une carte, quoi.
Donc, il est, on va dire, pilotable depuis son téléphone, ouais, en alors, quelque sorte. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres... Donc, j'ai
alors, ça, c'est la sécurité. Il y a une appli dédiée. Ouais. La sécurité de vélo, on vient d'en parler. La sécurité du pilote, vous avez sur le vélo 4 Komodo. Vous avez des feux intégrés à l'arrière clignotant, des feux clignotants intégrés sur le guidon et un feu à l'avant. Donc, vous décidez quel est le Komodo qui allume chacun des feux. Donc, vous pouvez gérer ça. Vous avez un klaxon électronique pour qu'on vous voit. Et vous avez la navigation qui vient de votre smartphone. Donc vous mettez l'adresse où vous voulez aller, vous mettez votre smartphone dans la poche, parce que sinon, quand les gens y roulent, ils font ça.
Oui, c'est pas bon.
S'ils tournent à droite, là, ils tombent. Et l'écran, lui, vous indique s'il faut aller tout droit, s'il faut tourner à gauche, ou s'il faut tourner à droite. Et pour pas que vous ayez les yeux rivés sur l'écran pendant que vous pilotez, il fait vibrer les poignets pour vous indiquer le moment où il faut tourner à droite ou le moment où il faut tourner à gauche.
C'est rigolo parce qu'il y a plein d'innovations qui étaient lancées par des startups qui sont intégrées dans ce vélo finalement. C'est une solution, on va dire, globale.
Alors on a
quoi.
Tout intégré dans le même vélo avec beaucoup de soft et de logiciels.
Mais le soft, tout ça, c'est nouveau pour vous? Enfin, je veux dire, on est dans... Là, il faut de l'ingénierie, de l'électronique, etc. Où est-ce que vous êtes allé trouver les talents de tout ça?
Eh ben moi, j'en ai fait beaucoup. D'abord, moi, mon métier, c'est développeur. Hein. Ouais. Donc, j'ai commencé par développer. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. On a fait pas mal de produits dans lesquels il y avait de la...
Je parlais du hardware. Hein,
enfin oui, mais le hardware... Bon, on a financé beaucoup de startups de Vialet, c'est de l'électronique.
Oui, c'est vrai que vous êtes investisseur de Vialet.
On avait investi dans MyFox, les alarmes pour protéger les maisons, c'est l'électronique. Oui. Donc, on a beaucoup financé des projets dans l'électronique.
Et donc, qui fait ça? C'est les Français, c'est chez nous, ça?
Ah, c'est en interne.
Tout est
développé chez nous. Toute la techno est développée chez nous. Après, les cartes sont fabriquées par-ci ou par-là. Le cadre est fabriqué en France. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait 70% de la valeur ajoutée du vélo en France.
C'est top.
Bah, c'est top. Mais c'est top. Ça me coûte 200 euros de plus. Parce que le fait de l'avoir fait à post-confinement, à proximité, avec des fournisseurs locaux, sans avoir des trucs en Chine de tous les côtés, ça m'a rajouté 200 euros de coût.
Si vous l'aviez fait, ce même vélo fabriqué en Chine...
Non, pas en Chine, mais moins en France.
Moins en France,
j'ai
vous
pris 200 euros
de moins.
Ouais, 200 euros de marge, c'est énorme. Hein. Ça fait 400 énorme. Euros sur le prix de vente, hein, si on fait une marge de x2. Donc, je n'ai pas voulu augmenter le prix du vélo.
On parle du prix. C'est
2690.
D'accord.
Et ça correspond exactement à 74 euros par mois sur 36 mois. Donc vous pouvez le payer sur 36 mois. Ou vous le payez en 3 ou 4 fois sans frais.
C'est pas donné. Enfin, je veux dire, bien sûr, on se dit, ok, voilà, c'est 2 590 € pour un vélo hyper high-tech, etc. Mais qui, aujourd'hui, peut se permettre d'acheter ce type de vélo, à votre avis ?
Eh ben, 15 000 personnes en France.
Oui, puisque c'est le nombre de commandes.
C'est le nombre de commandes que j'en ai. Après, quelle est la taille du marché français ? Ça m'est un peu égal, parce que
bien sûr.
Même si la France est 30 000 vélos, on va lancer ça dans 10 ou 12 pays. On va lancer les deux gros pays européens à la fin de l'année. On le lance aux États-Unis début 2021. On va lancer en Asie. On va le lancer en Israël. Donc,
mais c'est le bon prix, à votre avis ? Ou est-ce que finalement, comme c'est le premier, on peut imaginer dans quelques années avoir un équivalent moins cher ? Est-ce qu'on peut rogner ?
Non.
Je dirais sur la.
On peut gagner 200 balles sur les volumes ou parce que on
mais
va.
Mais pas plus, en fait.
Ben non, par exemple, un exemple, l'écran tactile qu'on a mis, on s'est demandé si on allait mettre tactile ou pas. On a choisi de mettre un écran tactile,
ben,
on a choisi la taille. Si on le mettait 30% plus grand, il rajoutait 200 € sur le vélo. Donc il y a des composants qui sont très chers.
Il faut que tout ça soit étanche et robuste. En
il faut
plus.
Que ce soit certifié, étanche et robuste. Ça doit marcher entre plus 50 et moins 20. Ça doit passer dans une chambre avec de la buée pendant des jours. Le guidon, il subit 400 000 chocs avec 160 kg dessus. Enfin, c'est un truc. Et je ne vous parle pas de la batterie arrière. Parce qu'on a développé la seule batterie au monde intelligente. Ça, personne n'avait jamais vu. Donc il a fallu qu'on mette de la batterie, de l'électronique, des lumières à l'arrière et un système de bus pour communiquer le vélo.
Alors l'autonomie et la vitesse maxi ?
Alors vitesse maxi elle est légale, donc on ne peut pas dépasser 25 km/h. L'autonomie 70 km avec la batterie de 2 kg.
D'accord.
On sortira certainement des batteries soit plus petites, ce qui est mon pari, soit plus grosses, c'est notamment pour les États-Unis.
Et donc on prend la batterie, on monte chez nous, on monte à la maison et on la recharge, c'est ça ? Comment ça se passe ?
Il y a un socle très design, donc vous prenez votre batterie, vous êtes au bureau, vous avez votre chargeur comme un iPhone,
oui, c'est ça.
Vous prenez la batterie, vous la posez, le soir elle est chargée, vous la mettez, vous rentrez chez vous, il y a un deuxième chargeur chez vous, mais le vélo, il pèse 14 kilos. Les concurrents, c'est 20, 21, 22, 23. 14 kilos avec la batterie dans une main et le vélo de l'autre, vous pouvez monter sur deux étages. Hein.
Et puis ça fait faire un peu de muscu. En plus.
Oui, et puis c'est un bel objet dans le salon, et puis ça évite de le laisser dans la cave à vélo, où ça devient le Capharnaüm.
Et comment ça se passe ? Seb, qui fabrique des vélos, on se dit, waouh, c'est quand même étonnant. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde avec le patron de l'usine Seb pour se dire, ok, on va fabriquer un vélo.
En l'occurrence, on est sur la même longueur d'onde avec le patron du groupe Seb.
Voilà, c'est ça.
Qui dit, il a fait une remarque extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, moi je suis en Chine, je sais plus combien il a d'usines. En Chine, c'est énorme. Il disait, j'allais en Chine il y a 20 ans, il y avait que des vélos. Après, j'y suis retourné il y a 10 ans, il y avait que des voitures. Et maintenant, quand j'y vais, il y a plus que des vélos électriques. Et un jour, il est rentré chez Seb en disant, les gars, il y a un marché de dingue qu'on n'a pas regardé, c'est les vélos électriques, c'est un truc qui va exploser.
C'est-à-dire que si vous n'étiez pas venu le voir, il aurait fait des vélos, à votre avis ?
Non, parce que je pense qu'ils ne savent pas le faire. Mais il aurait rêvé de faire... Alors, il aurait peut-être fait des vélos électriques.
C'est vrai que de la cocotte minute au vélo, il y a deux, trois trucs quand même.
Mais ça se ressemble. C'est de l'aluminium embouti.
Oui, mais bon, il n'y a pas... Enfin, si on parle de la connectivité et du hardware...
Pourquoi on a réussi à faire ce vélo ? Parce que moi, je passe mes nuits à penser au vélo. C'est ma passion. Donc, quand j'ai imaginé Angel... Pas son design, parce que ça c'est au Raito, mais quand j'ai imaginé ce que je vais mettre dans un vélo et qu'est-ce qu'il y a pour... je connais très très bien le vélo, d'ailleurs j'avais lancé Heroine qui a été considéré comme le meilleur vélo de course du monde, ça nous a appris à réfléchir à ce qu'on doit mettre dans un vélo. Seb, ils auraient fait des bons vélos électriques certainement, pour la Poste ou pour des Vélib, ils en auraient vendu certainement beaucoup. Mais là, ils ont l'opportunité d'entrer dans le smartphone, le seul au monde.
Alors, il est dispo quand, ce vélo, si je veux l'acheter ?
Alors, les premières expéditions, les précommandes sont ouvertes depuis novembre. On en a déjà 3000 qui sont en précommande. Les gens confirment leur commande maintenant et puis les nouveaux achètent. Aujourd'hui, quand on achète un vélo, il sera livré à peu près dans 5 semaines.
D'accord. Donc si je le commande maintenant, je l'aurai dans 5 semaines pour la rentrée, on va dire.
Et donc on va expédier les premiers, par contre, des gens qui ont acheté eux en novembre. On va commencer les expéditions fin juillet. Donc tout ça va se livrer fin juillet. En septembre, on aura livré nos 3000 vélos. Mais après le mois de septembre, Seb aura réussi à monter en cadence sur ses usines. Et vers, disons, être optimiste pour une fois, s'il n'y a pas de Covid, fin septembre, quand vous achetez un vélo Angel Online, vous le recevez 8 à 10 jours après.
C'est ça l'objectif ?
Ah bah oui,
c'est d'avoir 8 à 10 jours.
Là, on est dans le dur parce qu'on a un stock de commandes de dingue et 10 000 tests en attente. Alors là, là je ne sais pas gérer. Quoi. Donc, là,
Marc, dernière question. Vous m'avez dit juste avant qu'on commence d'appuyer sur le bouton d'enregistrement que c'était peut-être votre dernier gros projet.
Non, je n'ai pas dit peut-être. C'est vous qui avez dit.
Sans
peut-être.
Doute.
Moi, j'ai dit ce sera mon dernier projet.
D'accord.
Ouais.
C'est le dernier projet.
Là, c'est le dernier. C'est dernier d'abord parce qu'il va durer un moment, parce que si on a le temps qu'on arrive à faire tout ce que j'ai en tête, les versions américaines, d'autres versions, enfin, il y a déjà du travail. Deuxièmement, c'est un projet qu'on va lancer dans le monde, donc il va nous falloir quand même quelques années pour aller essayer de lancer ça partout, donc c'est long. Troisièmement, et dernièrement, et c'est le plus important, avant l'âge que j'aurai à la fin, parce qu'à la fin j'aurai 60 ans, 67 ans, 65 ans, franchement, faire des startups c'est bon, mais c'est surtout la première fois, depuis tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la première fois que la startup que je dirige produit un produit qui me passionne.
C'est ça qui est dingue.
Ce qui est dingue, ouais. Parce qu'à part le vélo, j'ai pas 36 passions, j'ai la littérature ou le tennis.
Vous n'étiez pas passionné par les dameuses?
Bah, je suis passionné par le ski, donc par ricochet, mais par ricochet, pas la dameuse. Tandis que là, c'est le vélo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc j'ai la chance, comme dernière boîte, de vivre d'une passion. Mais merci, quoi.
Ouais. Enfin, moi, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ce soit votre dernier projet. Mais on en reparlera.
Non, j'en financerai. Mais je ne serai pas impliqué.
D'accord. Mais en tout cas, merci d'être venu nous présenter ce beau bébé.
C'est moi.
On voit que vous y tenez et que c'est un produit qui vous passionne. Angel, donc, A-N-G-E, 2-L.
Ouais, parce qu'un ange, ça a 2-L.
Exactement. Merci, Marc.
Merci.
Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, pour le dernier De Quoi Je Me Mêle de la saison, après quelques semaines de congé. Ce sera la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur RMC et 01 TV.